Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Manifestation xénophobe en Afrique du Sud. L'ambassade de la RDC sur place appelle les Congolais à la vigilance dans les régions sous tension. Dans son message rendu public samedi, elle les exhorte notamment à limiter les sorties et à éviter de s'exposer dans la mesure du possible. Les inspecteurs du secteur éducationnel Nord-Kivu 2, couvrant Beni, Boutembo et Lubero, menacent de boycotter les épreuves certificatives en cause notamment le non-paiement d'une bonne partie des prestations de 2025 et l'octroi discriminatoire des primes. Notre invité, le coordonnateur provincial du Bureau des inspecteurs de droits de l'homme au Maniema, Trésor Kangela, déplore les conditions de détention dans la majorité des prisons de cette province. Après son itinérance, il interpelle les autorités à tous les niveaux. Madame, Monsieur, bonjour. L'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud informe la communauté congolaise à travers un communiqué publié samedi dernier, le 25 avril, de la tenue des manifestations à caractère anti-étranger observées dans certaines régions du pays, notamment au KwaZulu-Natal, au Cap-Occidental, ainsi que dans d'autres zones urbaines. Selon des sources concordantes citées dans ce communiqué, de nouveaux rassemblements seraient envisagés dans la province de Gauteng jusque demain à 29 avril, période coïncidant avec la célébration de Freedom Day. Ces événements pourraient comporter des risques de débordements et d'incidents isolés. Que préconise l'ambassade à ce sujet, Alain Rung?
L'ambassade appelle les ressortissants congolais à faire preuve de la plus grande vigilance en évitant tout attroupement aux zones à risque, en s'abstenant de toute interaction avec les manifestants, en limitant les déplacements non essentiels, en suivant les informations officielles et en renforçant les mesures de sécurité autour de leur domicile et lieu d'activité, précise le communiqué. Les opérateurs économiques congolais sont invités à évaluer la nécessité d'ajuster leurs horaires ou de suspendre temporairement leurs activités durant les journées à risque afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, tandis que l'ambassade demeure en étroite collaboration avec les autorités sud-africaines compétentes pour assurer la protection des ressortissants congolais. Enfin, les services consulaires restent disponibles pour toute assistance. En cas d'urgence, les ressortissants sont priés de contacter l'ambassade au plus 27 12 344 64 75 ou écrire à RD Congo en minuscule @lantique.net. L'ambassade en appelle au calme, au sens de responsabilité et au strict respect des lois de la République d'Afrique du Sud, conclut le communiqué.
Parlons de ces statistiques qui interpellent. La RDC compte désormais environ 6,47 millions de personnes déplacées sur une population totale de 113 millions d'habitants, ce qui place le pays au cinquième rang des pays comptant le plus de personnes déplacées après le Soudan, la Syrie, l'Afghanistan et l'Ukraine. C'est ce qu'indique l'ONU sur son site. L'Organisation des Nations Unies précise que depuis un peu plus d'un an, la crise humanitaire engendrée par les conflits armés dans l'est du pays s'est aggravée, en particulier au Nord Kivu. Selon des experts des droits de l'homme de l'ONU et des agences humanitaires, plus de 700 000 personnes ont été déplacées entre janvier et février 2025 lors d'importantes offensives du groupe armé rebelle M23 autour de Goma, Bukavu, Masisi, Sake et Minova. Plus de détails avec vous, Élisée Chikota-Chivuita.
Selon l'ONU, la RDC pourrait dénombrer 9 millions de personnes déplacées d'ici fin 2026, estime le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, si les conflits se poursuivent au rythme actuel. Un Congolais sur quatre, soit quelques 26,6 millions de personnes, ne peut satisfaire ses besoins alimentaires de base, selon le Programme alimentaire mondial PAM. Environ 6,4 millions de personnes souffrent de malnutrition aiguë, un chiffre qui n'a pas diminué depuis 20 ans. Chaque heure, quatre femmes meurent des complications liées à la grossesse. Le pays affiche également l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde. La RDC doit aussi faire face à des chocs climatiques et des épidémies. En 2024, les inondations les plus graves depuis 60 ans se sont produites en raison de pluies torrentielles et de crues du fleuve Congo. La catastrophe a détruit ou endommagé 100 000 maisons, 1325 écoles, 265 centres de santé et de vastes étendues de terres agricoles et laissé environ 2 millions de personnes, dont près de 60% d'enfants,
dans les besoins d'assistance.
Le pays était alors aux prises avec l'une des pires épidémies de choléra de ces dernières années, une maladie grave mais évitable. Chaque année, le choléra fait de nombreuses victimes en raison d'infrastructures insuffisantes, de difficultés d'accès aux soins et d'une faible couverture vaccinale.
L'Assemblée nationale a adopté hier lundi les projets de loi autorisant la ratification des accords de Washington. Cette adoption est intervenue après la présentation du rapport de la commission mixte sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ainsi que sur l'accord stratégique conclu avec les États-Unis. Les députés ont également validé un autre rapport issu des auditions des membres du gouvernement dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires et de gouvernance. Le point avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
Les députés nationaux ont approuvé sans modification ni débat de fond le rapport de la commission mixte relations extérieures, défense et sécurité et économique et financière relatif aux accords dits de Washington. Déclaré recevable le 13 avril après leur présentation par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikomba-Wagner, ces accords visent à la fois une stabilité durable dans la région via la cessation des hostilités et des mécanismes conjoints avec le Rwanda et un partenariat stratégique avec les États-Unis dans des secteurs clés comme les minéraux critiques, l'énergie, les infrastructures et la sécurité. Dans la foulée, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bogi, a formulé quelques recommandations, notamment l'amélioration du climat des affaires pour attirer davantage d'investissements, notamment dans les secteurs miniers, et la mise en place d'un groupe de travail chargé de suivre l'exécution des accords. Les textes sont attendus au Sénat pour une seconde lecture. Par ailleurs, la plénière a aussi adopté le rapport de la Commission Défense et Sécurité sur l'audition des 7 membres du gouvernement. La Commission recommande la mise en place d'une enquête parlementaire visant notamment les ministères de l'Intérieur, de la Défense, du Budget et des Finances afin de renforcer le contrôle et la redevabilité.
Parlons de cette initiative à présent. Au Nord Kivu, près de 300 ménages déplacés de retourner à Kaina, dans le sud du territoire de Lubero, se sont lancés ensemble dans la culture maraîchère. Cette initiative vise à les rendre moins dépendants de l'aide alimentaire. Tous victimes de conflits armés, ces hommes et ces femmes savent ce que signifie souffrir de la faim. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'unir leurs efforts dans la culture maraîchère pour relever ensemble le défi de la survie en pleine crise. Rosalie Zawadi nous fait découvrir leur travail.
C'est depuis novembre dernier que 283 ménages, des déplacés mais aussi des retournés, ont lancé cette initiative. Dans leur champ collectif, on peut voir des amarantes, des aubergines, des choux, des poireaux et d'autres légumes. Pour ces femmes, travailler la terre est devenu une nécessité vitale.
Nous n'avons plus d'aide. C'est pourquoi nous avons jugé utile de chercher un champ pour travailler ensemble afin de cultiver des légumes qu'on peut récolter dans un bref délai. Il n'y avait rien d'autres affaires. Comme nous n'avons pas d'argent, ces légumes peuvent nous aider à lutter contre la faim.
À Kaina, les déplacés exploitent gratuitement les terres appartenant aux retournés. Une synergie qui facilite l'accès aux fonciers, explique Kaembe Alphonse, encadreur de ces ménages.
Nous sommes en train de nous organiser en faisant des petites contributions pour trouver les semences. Au moins, une tasse de semences de légumes se trouve à 1500 francs et puis on les trouve facilement.
Plus qu'une simple activité agricole, cette initiative est un modèle de résilience d'une population qui ne baisse pas les bras en espérant le retour de la paix. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Les inspecteurs de l'enseignement et de la division éducationnelle Nord Kivu 2, couvrant les régions de Beni, Butembo et Lubero, menacent de boycotter l'organisation de l'examen d'État ainsi que d'autres épreuves certificatives prévues pour la session 2026. À la base, le non-paiement de plus de la moitié des indemnités de la session 2025, l'octroi jugé est discriminatoire de certaines primes ainsi que l'absence des garanties sur la prise en charge des activités en cours. Dans un mémorandum adressé à la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, le syndicat des inspecteurs de l'enseignement de la région prévient que sans mesures urgentes, la crédibilité et le bon déroulement des épreuves pourraient être compromis. Écoutons le secrétaire du syndicat Samuel Kakolekombi dans cet extrait que nous propose Martial Papimukiba.
Face à l'octroi discriminatoire de la prime pour fonction spéciale, au non-paiement délibéré de 51% des indemnités de la session 2025 et à l'incertitude de la prise en charge de la session 2026, nous venons prévenir de la compromission éventuelle du bon déroulement de la session prévue pour ce 4 mai courant. Qu'en moins d'une semaine, aucune disposition financière effective n'a été observée, il est évident que nous produisions une sonnette d'alarme. Dans notre province, l'administration de l'examen d'État exige le déploiement des intervenants dans des zones enclavées et en insécurité permanente, ce qui nécessite des moyens logistiques pour le transport, l'hébergement et la subsistance. À l'absence des mesures urgentes et concrètes, nous sommes au regret de vous faire part de notre décision de boycotter sans procès l'accompagnement de l'Exeta, du NASIC, du TENASOSP et de l'ENAFEB, session 2026.
Pour l'instant, nous n'avons pas encore obtenu la réaction de la ministre de l'Enseignement primaire de l'Éducation nationale. En Mbujimayi, dans la commune de Kanchi, les écoles primaires conventionnées catholiques Tubondo et Saint-Léonard, situées au quartier Tubondo, sont menacées de disparition. Une ramification de trois têtes d'érosion qui progresse lentement mais sûrement a déjà englouti une partie des bâtiments de ces complexes scolaires. Face à cette situation, les responsables scolaires lancent un appel pressant aux autorités provinciales et nationales afin d'intervenir rapidement pour préserver ses infrastructures. Esther Dalafina.
Construites il y a plusieurs décennies, les écoles primaires Tubondo et Saint-Léonard accueillent chaque année près de 2000 élèves. L'épée Tubondo fonctionne le matin tandis que Saint-Léonard organise ses cours l'après-midi. Mais aujourd'hui, ces deux établissements sont menacés par l'avancée continue des ravins qui grignotent progressivement leurs bâtiments. Nicolas Katamboa, directeur adjoint de l'épée Saint-Léonard, décrit un climat d'insécurité permanent pour les élèves.
Quand on a vu ces dangers, on s'est mis à lancer les cris d'alarme, ça et là, interpellant les autorités pour qu'elles nous viennent en aide. Jusque-là, la solution tarde à venir. Pendant la récréation, nous avons initié les enseignants comment encadrer ces enfants qui ne tombent pas dans le ravin. Pendant la pluie, en tout cas, ou quand il y a menace de pluie, on libère les enfants.
Face à cette situation, les responsables des deux écoles lancent un appel pressant aux autorités pour une intervention rapide afin d'éviter que ce complexe scolaire ne disparaisse totalement. Il convient de rappeler que l'EPE Tubondo et Saint-Léonard sont des institutions publiques conventionnées où l'enseignement est dispensé gratuitement conformément à la politique de la gratuité prônée par le gouvernement. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et à Kananga, dans la province du Kasaï central, notez cette bonne évolution des travaux de lutte anti-érosive lancés en janvier dernier dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, Puruk. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un financement de 100 millions de dollars américains accordé depuis 2023 par la Banque mondiale à ce projet du gouvernement congolais. Les populations riveraines des ravins saluent l'effectivité des travaux. Elles invitent les responsables du projet à accélérer leur mise en œuvre. André Katendengala Moulumé a fait la ronde de certains sites érosifs. Suivez son reportage.
Sur l'avenue Tabora, au quartier Nganza Sud, commune de Nganza, l'entreprise Zengwei remblait un ravin qui a longtemps menacé la population. Les riverains saluent l'effectivité des travaux après des années de souffrance. Laura Takayembe et Alphonsine Chamala témoignent. On souffrait parce qu'il n'y avait pas de passage. Certains enfants tombaient dans les ravins. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que le passage devient facile.
On avait peur de mourir dans le ravin. On était déjà isolés. Aujourd'hui, nous glorifions Dieu.
À quelques mètres, d'autres travaux anti-érosifs visent un ravin qui menaçait l'école primaire Mukoleshi 2, la paroisse Saint-Martyr et les centres de santé du même nom. L'infirmière Alphonsine Michindou se rappelle des risques et conséquences de cette érosion.
On avait peur parce que notre centre pouvait s'écrouler dans le ravin. Nous avons raté beaucoup d'opportunités auprès des partenaires qui ne savaient pas nous atteindre. Et certains malades ne pouvait venir ici.
Les travaux se poursuivent aussi sur les sites de Luka, Lukonga ainsi que Nzanza au quartier Mobutu. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Dans ce journal aussi, cet accident de circulation survenu hier lundi sur la route Kipushi, non loin du marché Mimbulu au quartier Jekamine à Lubumbashi. 4 morts et 7 blessés, c'est le bilan officiel encore provisoire. D'autres sources évoquent plutôt une dizaine de décès. Selon des témoins, un camion de marque Volvo a percuté des vendeurs installés le long de la chaussée. Le chauffeur du véhicule affirme que l'accident a été provoqué par une distraction alors qu'il utilisait son téléphone portable au volant. Le point avec Paula Munanga.
Le chauffeur du camion a perdu le contrôle et a percuté les piétons et les marchands ambulants qui étalent régulièrement leurs marchandises aux abords de la route Kipushi. Le camion a aussi détruit une cabine téléphonique, signale des témoins. Il a fini sa course dans un arbre situé dans l'enceinte de l'église méthodiste unie. Les blessés ont été dépêchés dans des structures hospitalières. Le chauffeur est en garde à vue à la police et le camion a été vandalisé avant l'intervention de la police qui l'a mis en fourrière. Signalons que ce drame a paralysé les activités économiques en ces lieux dans la matinée de ce lundi. La population annonce que plusieurs accidents de circulation se produisent régulièrement à cet endroit qui est envahi par des marchands ambulants qui vendent leurs marchandises le long de la route empêchant la bonne circulation des véhicules. Signalons que la présence de cette masse de vendeurs est à la base des embouteillages. Certaines personnes pensent que l'État devrait mettre fin à la présence des marchands qui étalent leurs produits le long de la route et s'exposent à un danger permanent. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, de nouvelles détonations ont été entendues la nuit dernière à Bamako, notamment vers la zone aéroportuaire. Ces explosions surviennent 3 jours après les attaques coordonnées menées par les djihadistes et le Front de Libération de l'Azawad. D'après RFI.fr, la ville stratégique de Kidal reste sous contrôle de ces deux mouvements qui poursuivent leur organisation sur le terrain malgré les appels au calme.
L'invité.
Dans la province du Maniema, le bureau des inspecteurs de droits de l'homme, coordination provinciale, déplore les conditions de détention dans la majorité des prisons. En mission de service à Kasongo, trésor Kangila Amwanga affirme que ces conditions de détention violent à ce jour les principes fondamentaux des droits humains. Il appelle les autorités, en particulier le gouvernement central, à accorder une attention particulière à la situation des prisonniers qui sont certes privés de liberté mais continuent de jouir de leurs droits essentiels. Trésor Kangila, coordonnateur provincial du bureau des inspecteurs de droits de l'homme au Maniema, s'entretient avec Laurence Kizalunga.
Kangela Mwanga Trésor, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce qu'on peut savoir la mission d'un inspecteur des droits de l'homme?
Oui, la mission d'un inspecteur des droits de l'homme, premièrement d'abord, un inspecteur des droits de l'homme, c'est un homme du terrain. Et premièrement d'abord, avant de faire quelque chose, il doit observer, analyser et documenter. C'est pourquoi un inspecteur des droits de l'homme a l'unique mission d'observer les violations des droits de l'homme.
En observant les violations des droits de l'homme, est-ce que vous avez le temps de former vos inspecteurs? Parce que dernièrement, nous vous avons vu dans les territoires de Kasongo où vous avez pu installer de nouvelles coordinations avec de nouveaux animateurs.
Oui, premièrement, nous d'abord, pour être appelé un inspecteur des droits de l'homme, vous devez passer par 4 jours de formation et nous avons 8 modules. C'est pourquoi un inspecteur des droits de l'homme, il est bien formé et il respecte aussi la constitution pour être jeté dans le terrain pour documenter les violations des droits de l'homme.
Et pour qu'il n'y ait pas de violation des droits de l'homme parmi vos inspecteurs, nous croyons que vous faites également des suivis réguliers. Et le 8 modules en question, est-ce que vous le remettez pour un apprentissage continu?
Oui, c'est très difficile que vous laissiez l'inspecteur des droits de l'homme sans module. Parce qu'il y a même des références, même si vous n'êtes pas là, il peut consulter pour trouver l'applicabilité des droits de l'homme. C'est pourquoi on lui donne d'abord ça, les 8 modules. Après la formation, on lui donne ça et on lui donne aussi les brevets et les cartes de service.
Alors, vous avez été dans les territoires des Kasongo. Quelles sont les violations des droits de l'homme que vous avez pu documenter durant votre séjour?
Oui. Premièrement, d'abord, j'ai trouvé tant de violations des droits de l'homme dans le territoire de Kasongo. Il y a même des arrestations arbitraires de nos confrères, ce qu'on appelle Wazalendo. Il y a même le non-respect des dignités humaines dans de certaines prisons dans le territoire de Kasongo. On a trouvé tant de violations des droits de l'homme et on a essayé aussi de documenter des cas, par exemple, des prisons Chantal de Kasongo. Il y a des conditions de détenus inhumaines. Pas d'eau, pas de soins de santé, malnutrition. Ça crée aussi des kwashiorkor et il y a aussi tant de morts. C'est pourquoi nous demandons aux autorités provinciales de faire quelque chose pour trouver la paix, la stabilité et le respect des dignités des droits de l'homme dans les détenus. Il y a aussi des morts répétitives dans des prisons et on a enregistré tant de cas et il y a aussi des malnutritions parce que si on ne donne pas l'accès à la population pour fréquenter les détenus parce qu'avant d'entrer vous devez payer 5000 francs. Ça c'est manquement grave des droits de l'homme. C'est pourquoi on a essayé de vérifier, on a documenté des cas de violation des droits de l'homme et des morts aussi.
Après avoir documenté ces cas de violation des droits de l'homme, qu'est-ce que vous allez faire avec?
Après avoir documenté, nous devons aussi déposer à qui des droits. Nous commençons d'abord ici dans notre province du Maniema. Nous devons aussi déposer au gouverneur de la province du Maniema pour demander l'implication de regarder comment peut aussi trouver quelque chose pour calmer aussi l'hémorragie. Parce que s'il n'y a pas à manger, il n'y a pas les soins appropriés pour les détenus, conditions aussi carcérales. Il n'y a pas la lumière, il n'y a pas d'eau, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement provincial de créer d'abord une commission pour aller d'abord vérifier les conditions et faire d'abord quelque chose comme garantie pour sauver les êtres humains.
Cette question, responsabilité, ne relève pas que du gouvernement provincial. Il y a les gouvernements centraux qui ont cette charge.
C'est pourquoi aussi le BDH ne peut pas oublier le gouvernement national. Nous demandons au gouvernement central de créer d'abord quelques commissions, de voir comment on peut aussi aider les détenus. Parce que quand vous êtes aussi détenus, ce n'est pas aussi privé pour leurs droits. Il y a leurs droits et nous demandons aussi l'implication du gouvernement central pour aider nos confrères qui sont dans des lieux carcérales. Oui, là vraiment nous sommes désolés avec les conditions de détention présentement dans les territoires de Kasson.
Alors vos BDH, quel est votre accompagnement à des cas pareils où par exemple le gouvernement vient en retard?
Oui, comme BDH, nous organisons surtout des champs de maïs pour aider les prisonniers dans de certaines prisons. Comme en 2025, on a essayé aussi de faire ça. En 2026, nous préparons aussi comment vulgariser nos champs de maïs dans certaines coordinations du bureau des inspecteurs des droits de l'homme dans la province du Maniema. Oui, parce qu'avec ça, ça va nous donner beaucoup de production pour aider aussi les détenus dans notre province et dans des territoires de la province du Maniema.
Monsieur Kangila Mwanga, Trésor, merci.
À vous aussi, madame.
Trésor Kangila, coordonnateur provincial du Bureau des inspecteurs des droits de l'homme au Maniema. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Alain Hirong et Elise Chikota Chivueta, mis en onde par Jean-Claude Donciel avec Babel Pongo Massimangwa à la présentation. Merci de votre attention. Bon après-midi.